métier des Amériques. Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, il est 8h10 à Lima. Le Pérou face à une marée noire, la faute à qui ? Personne n'assume, vous l'entendrez. Joe Biden, un président empêché un an après le début de sa présidence. Les États-Unis, où l'un des suspects dans l'assassinat du président haïtien comparé aujourd'hui devant la justice, on en parle avec Franz Duval du Nouvelliste, juste avant d'évoquer un rapport accablant sur la gestion du Covid dans les centres pour personnes âgées au Québec. Et de vous retrouver, Benoît Ferrand, à la une de la première, la pandémie encore, et les mauvais chiffres en Guadeloupe.
Eh oui, mauvais, c'est peu de le dire. 16 331 nouveaux cas la semaine dernière, un taux d'incidence à 4359. Du coup, nous le verrons, la perspective d'un reconfinement refait surface.
À tout à l'heure, Benoît, et bienvenue à tous.
Non, nosotros no ocasionamos el desastre ecológico.
Non, nous n'avons pas provoqué ce désastre écologique. À la télévision péruvienne hier soir, la responsable de la communication de Repsol dément toute responsabilité. Sa compagnie, qui opère la raffinerie dans la région de Lima, n'est pas à l'origine de la marée noire qui s'est produite samedi. Quelques 6000 barils de brut qui se sont déversés sur les plages. La raffinerie explique que c'est l'éruption volcanique qui s'est produite dans les îles Tonga, des milliers de kilomètres de là, qui a entraîné une houle si forte et bien que le chargement d'un tanker s'est déversé. Bref, la faute a pas de chance, selon Repsol. Bonjour Marie-Normand.
Bonjour Mickaël.
Une défense sur laquelle la presse péruvienne revient ce matin.
Oui, avec cette interview reprise par le site internet de La Repubblica, la responsable de la communication de Repsol n'hésite pas a chargé ensuite la marine péruvienne qui aurait assuré la compagnie qu'elle pouvait bien procéder au déchargement du navire. Correo reprend pour sa part les propos de la première ministre péruvienne. Elle soutient que Repsol n'avait pas de plan d'urgence en cas de marée noire et n'a donc pas eu la capacité de réagir. Dans cette conférence de presse partagée par Correo, Mirta Vázquez s'interroge aussi sur la réaction de Repsol après l'accident.
Porque en principio lanzaron una alerta que efectivamente minimizaba el hecho.
Voilà, la première ministre se demande pourquoi Repsol a d'abord minimisé l'ampleur de la marée noire et ne l'a pas signalé plus tôt aux autorités. Une enquête est en cours, mais pour El Comercio, dans son édito qui vient de sortir, Repsol est le seul responsable.
Mais Marie, tout le monde, finalement, si je comprends bien, se renvoie la balle. Hein, et cinq jours après, bien, le pétrole, lui, continue de se déverser sur les plages.
Oui, aujourd'hui, le Pérou en est à 20 plages contaminées, titre El Comercio. Un diaporama photo montre d'ailleurs l'étendue des dégâts. Ces nettoyeurs en combinaison blanche qui pataugent dans le goudron et ramassent des oiseaux morts. Et désormais, ce sont deux réserves naturelles qui sont touchées, comme le confirme Daniel Olivares, le vice-président de l'ONG Oceana Pérou.
La marée noire a touché deux zones protégées, riches en poissons, en oiseaux, en mammifères divers. C'est une zone de pêche artisanale dont dépendent beaucoup de gens à bas revenus. Ils y pêchent tous les jours.
Et dans cette interview réalisée par Raphaël Morand, Daniel Olivares s'étonne du peu de personnes envoyées par Repsol pour nettoyer, mais aussi pour tenter de contenir cette marée noire. Le gouvernement a donné jusqu'à dimanche à la compagnie pour mener à bien ses opérations, note El Comercio. En raison du grave préjudice porté à des centaines de familles de pêcheurs, le chef de la diplomatie péruvienne a d'ores et déjà exigé de Repsol des dédommagements.
Affaire donc qui est loin d'être terminée. Il est 8h14. À Washington. Et il y a quelques heures, au Sénat américain, un enterrement en bonne et due forme. Le passage en force n'aura pas lieu. Joe Biden avait promis de faire modifier les règles de vote du Sénat pour faire adopter à la majorité simple sa réforme, garantissant un accès au vote des minorités. Paris, raté. Deux élus électrons libres ont refusé de jouer le jeu, Kirsten Sinema et Joe Manchin, qui s'en est expliqué.
Permettre à un parti d'exercer un contrôle total sur le Sénat avec seulement une majorité simple ne fera que jeter de l'huile sur le feu. Et il ne faut pas chercher bien loin pour voir déjà à quel point nous nous déchirons. Je peux vous dire que dans chaque partie de ce pays, les gens sont divisés maintenant. Éliminer le filibuster serait la solution de facilité. Je ne peux pas soutenir une solution si périlleuse pour cette nation alors que les dirigeants élus sont envoyés à Washington pour unir notre pays, pas pour le diviser. Nous nous appelons les États-Unis, pas les États divisés. Il est temps que nous fassions le travail difficile pour forger les compromis qui peuvent résister à l'épreuve du temps.
hard work to forge the difficult compromises that can stand the test of time.
Le Sénat enterre donc l'espoir de Joe Biden de voir adopter son texte. Hein. De plus, ça fait mal, hein, surtout aujourd'hui, Marie, date du premier anniversaire ce 20 janvier du démocrate à la Maison-Blanche.
Et Politico tente d'expliquer pourquoi Chuck Schumer a choisi de mener un combat qu'il ne pouvait gagner. Pourquoi le chef de la majorité démocrate, qui n'a pas l'habitude d'entraîner son groupe parlementaire dans des votes perdus d'avance qui divisent, a fait ce pari fou d'un passage en force. Politico raconte que Chuck Schumer a manœuvré tout l'été pour s'assurer que ce changement de règles au Sénat serait bien voté. Il a presque réussi à convaincre tout le monde, tous les démocrates, tous sauf deux, donc, qui scellent aujourd'hui cet échec.
Aujourd'hui, donc, triste anniversaire, Marie, pour le président, d'après la presse.
Oui, pour USA Today, c'est un Biden en difficulté qui tente de se réinitialiser. Peut-être que la solution viendra d'un changement de stratégie. Fini la recherche d'un consensus avec les Républicains pour celui qui se présentait pendant la campagne comme un pro du dialogue. Peut-être peut-il se relancer, justement, en se mettant aller blâmer ces républicains. Le Washington Post note déjà un changement de ton dans la conférence de presse du président hier. Il a rejeté la responsabilité du blocage de son programme sur les républicains et suggéré qu'il avait été surpris par leur intransigeance.
Je n'avais pas vu venir un effort aussi vigoureux pour s'assurer que le plus important, c'était que le président Biden ne puisse rien faire.
Et voilà un changement de ton déjà amorcé en début d'année dans son discours commémorant l'attaque du Capitole. Le passage, conclut le Washington Post, d'une année inaugurale axée sur l'action du Congrès à une année électorale âprement disputée où le contrôle du Congrès est en jeu.
De Washington à Miami en Floride avec une actualité judiciaire très haïtienne ce jeudi.
RFI à Port-au-Prince. 89.3 FM.
Dernier développement dans l'enquête sur l'assassinat du président Moïse. Rodolphe Jarre, homme d'affaires haïtien et trafiquant de drogue, arrêté en début de mois. L'un des principaux suspects dans cette enquête, il vient d'être transféré aux États-Unis. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef du Nouvelliste en ligne avec nous de Port-au-Prince. C'est à lire en une de votre quotidien. Rodolphe Jarre doit comparaître ce jeudi pour la première fois devant un tribunal fédéral de Miami.
Tout à fait, et surtout il faut dire qu'il est le deuxième suspect important à comparaître devant un juge américain. Et ça fait la deuxième fois en moins d'un mois que les États-Unis réussissent à faire transférer aux États-Unis un suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il y a de cela quelques semaines, c'était Mario Palacios, un Colombien présumé membre du commando qui est rentré dans la chambre du président, qui a assisté ou exécuté le président. Et cette fois, c'est un homme d'affaires qui avait donné maison, voiture, moyens financiers pour que le complot ait lieu. Il faut dire aussi que cette semaine, un autre membre présumé du complot contre le président Moïse a été aussi arrêté, cette fois en Jamaïque. C'est l'ex-sénateur haïtien John Joel Joseph, qui lui est aux mains de la justice jamaïcaine. On présume qu'il sera transféré bientôt aux États-Unis également.
Voilà, ces nombreuses ramifications dans cette enquête 6 mois après la mort et l'assassinat du président Moïse. France, tout autre chose. Demain, le Canada organise une réunion virtuelle consacrée à Haïti. Elle réunira les membres du core group, les premiers ministres haïtiens et canadiens. Et vous vous demandez dans votre éditorial sur quoi va déboucher cette conférence alors qu'arrive le 7 février, date que beaucoup considèrent comme la fin du mandat du premier ministre Ariel Henry.
Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut se rappeler que le premier ministre Ariel Henry qui est en poste aujourd'hui grâce à l'appui du core group. C'est le core group qui avait tranché quand il était question de savoir qui allait diriger Haïti après le décès du président Moïse. Depuis, Ariel Henry a eu des difficultés pour remettre sur les rails les institutions démocratiques. Aujourd'hui, il est toujours en poste, mais il est de plus en plus contesté. Tout ça pour dire qu'à l'approche du 7 février, qui est la fin du mandat du président Jovenel Moïse, qui avait nommé Ariel Henry, il y a beaucoup de gens qui s'activent pour essayer de trouver une alternative. La conférence appelée par le Canada arrive à un moment où on doit trancher. Va-t-on du côté de la communauté internationale supporter Ariel Henry, renforcer son mandat ou clarifier son mandat? Parce que pour le moment, Ariel Henry n'a pas de terme à son mandat. Il n'y a pas d'échéancier précis. Il n'y a rien de clair. Et surtout, apporter deux choses qu'Haïti a besoin, quel que soit le premier ministre qui sera en poste: la sécurité, des armes, de la formation, des renseignements pour aider à combattre les bandits en Haïti, et aussi des bouffées d'oxygène pour l'économie haïtienne, parce qu'après l'augmentation des produits pétroliers, avec l'inflation, beaucoup d'Haïtiens sont sont en insécurité alimentaire, il y a des risques de troubles sociaux si on ne vient pas au secours d'Haïti dans les prochaines semaines.
Oui, au mois de mars, plus de 4,5 millions d'Haïtiens pourraient se retrouver en situation d'insécurité alimentaire, France.
Tous ceux qui évaluent la situation sur le terrain pousse des cris d'alarme, ça va des ONG aux Nations Unies. Tous ceux qui observent voient qu'il y a une détérioration accélérée de la situation alimentaire sur le terrain. Il y a une augmentation très forte de l'inflation, à la fois l'inflation importée, mais aussi l'inflation pour des raisons locales. Et tout ça jette dans l'insécurité alimentaire beaucoup d'Haïtiens. Et il faut se rappeler que tout ça arrive dans un contexte où toute la presqu'île du sud d'Haïti a été frappée par un séisme en août dernier. La situation économique ne peut pas s'améliorer parce que jusqu'à présent, circuler sur tout le territoire haïtien est compliqué à cause des questions d'insécurité.
Franz Duval du Nouvelliste, tout ça est à lire évidemment dans l'édition de ce jeudi. Merci beaucoup. On évoquait ensemble le Canada. Eh bien, je vous propose d'en prendre tout de suite la direction. Le Québec n'était pas prêt à faire face à la pandémie de Covid. C'est clair, c'est net et c'est précis. Écrit noir sur blanc dans un rapport rendu public hier soir par le commissariat à la santé chargé de faire la lumière sur les 5700 personnes âgées mortes du Covid en septembre 2020 dans les maisons de retraite et centres de soins de la province. L'effort a été mis sur les hôpitaux et pas sur ces centres pour les aînés, conclut le rapport. Ce que confirment les témoignages recueillis par Pascal Guéricola.
En avril 2020, Jean-Pierre Daubois arrive en catastrophe dans l'état où vit sa mère, atteinte du Covid, comme plusieurs autres patients. Voilà comment il décrit les lieux.
Comme une zone de guerre. C'était la catastrophe. Les gens couraient partout. Les peu d'employés qui étaient là étaient en sueur. Les gens s'étaient mis des visières parce que l'administration refusait de leur procurer des masques. Ma mère, elle avait une espèce de bonbonne. Ça avait l'air du matériel qui datait des années 50. Puis on voyait très, très bien que c'était pas suffisant. Elle avait besoin de plus d'air que ça.
Depuis plusieurs mois, les témoignages se succèdent devant l'instance qui enquête sur les raisons qui expliquent que tant de personnes âgées hébergées dans des centres de soins soient mortes du COVID.
Jusqu'au PDG du centre de santé, tout le monde a nié. Tout, c'est pas moi, j'ai pas participé à telle réunion, j'étais pas en charge de cet aspect-là. Puis dans tous leurs témoignages, ceux du gouvernement, ben, ils ont tout retourné vers les directeurs d'établissement que c'était à eux autres à le faire. Tout le monde s'est caché là-dedans. Fait qu'on n'a pas eu les réponses qu'on était en droit d'avoir.
Durant les audiences, même la coroner chargée de l'enquête a fait part de son exaspération face au manque de réponses précises des témoins. Pour François Bélan, professeur à l'École de santé publique à l'Université de Montréal, les choix financiers du gouvernement québécois annonçaient cette catastrophe.
Alors, en fait, la situation est encore plus scandaleuse que ce que l'on pense. Et quand les ministres arrivent et disent « oui, mais on ne le savait pas, oui, mais on ne le savait pas », je suis désolé, vous n'aviez aucune raison de ne pas savoir. Vous vous êtes organisé pour ne pas le savoir parce que vous avez négligé les deux bras, si on veut, d'une intervention qui était une politique sérieuse de services de longue durée pour les personnes âgées et des interventions de santé publique, une politique de santé publique conséquente pour le Québec. Tandis qu'on le sait, ce qui s'est passé, le ministre Barrette a coupé les budgets de la santé publique d'à peu près 30%.
Un rapport de la commissaire à la santé et au bien-être du Québec recommande d'ailleurs de se concentrer sur les soins aux patients et de cesser de prendre des décisions d'une façon trop centralisée. Médecin dans un établissement pour personnes âgées, Élise Boulanger constate que désormais, il existe une plus grande collaboration entre le personnel et les responsables.
C'est sûr qu'il y a un changement de culture qui doit s'opérer au fil du temps. Des endroits où il y avait certains médecins ou des gens cliniques qui ont pu s'impliquer davantage, ça a beaucoup aidé au niveau du contrôle des éclosions sur place. Donc, il y a eu ce changement-là, je pense, qui s'est fait de dire « OK, attends un petit peu, là, je pense que quand on travaille ensemble, ça se passe beaucoup mieux ». Donc, oui, davantage d'implication depuis 2 ans. Puis ça, je pense que c'est bien, puis c'est vraiment au bénéfice des résidents.
De son côté, l'ancien ministre de la Santé, Régent Hébert, préconise une plus grande décentralisation des services aux personnes âgées.
Cette crise-là devrait nous faire réaliser qu'on s'en va dans le mur en utilisant toujours la solution institutionnelle plutôt que de mettre en place, comme plusieurs pays européens et asiatiques ont fait, un financement qui permette aux gens de rester à domicile le plus longtemps possible. C'est la grande leçon de cette pandémie. Est-ce qu'on va la tirer, cette leçon-là? Je suis loin d'en être convaincu, mais il faut continuer à réclamer de la part de nos dirigeants qu'on priorise les soins à domicile.
Reste à savoir ce que le gouvernement du Québec fera de toutes ces recommandations alors que des élections ont lieu cet automne. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
8h25 à Québec.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Ce n'est pas le Covid, mais un mal mystérieux qui a frappé des diplomates américains à travers le monde. On appelait ça alors à l'époque le syndrome de La Havane, des attaques acoustiques. Marie Normand, on vous retrouve. La CIA n'est finalement pas d'accord avec l'idée que ce syndrome est attribué à la Russie.
Oui, le rapport conclut que la majorité des 1000 cas signalés au gouvernement ont des causes environnementales, médicales ou non diagnostiquées, donc ou proviennent du stress même. C'est ce qu'écrit le New York Times aujourd'hui. Conclusion qui a suscité la colère des victimes qui se battent depuis des années contre des maladies chroniques sans qu'on leur donne d'explications claires. C'est le cas d'un ancien de la CIA qui a souffert de ces symptômes lors d'un voyage à Moscou en 2017. Il nous a fallu 10 ans, dit-il, pour trouver Oussama Ben Laden. Je demande simplement de la patience et la poursuite de l'enquête. Le gouvernement américain précise qu'il continue bien d'enquêter, mais sur un nombre plus restreint d'incidents, à savoir 2 dizaines seulement de cas toujours inexpliqués. Michael.
Marie Normand pour la presse du jour, merci.
Le journal de l'Outre-mer.
On revient au Covid avec Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Avec un taux d'incidence de 4359 cas pour 100 000 habitants, la situation sanitaire ne semble pas prête de s'améliorer en Guadeloupe.
Eh oui, 16 331 nouveaux cas de Covid-19 la semaine dernière dans l'île des Antilles. Du coup, la perspective d'un reconfinement refait surface. Franck Aristide.
Pas moins de 116 personnes hospitalisées la semaine dernière. L'hôpital commence à subir de plein fouet les effets d'Omicron. Plus de 150 patients sont désormais soignés pour le Covid au CHU, dont 15 en réanimation. Seul un de ces malades en soins critiques à cause du SARS-CoV-2 était vacciné et n'avait reçu qu'une dose. Plus dramatique encore, 9 personnes ont succombé à la pathologie. La plus jeune avait 22 ans. Des chiffres en milieu hospitalier, conséquence directe des contagions. Même si l'accélération marque le pas, 20% de cas de plus ont été enregistrés. Autre inquiétude, 40% des contaminés avaient plus de 40 ans. Seuls 41% de la population dispose aujourd'hui d'un schéma vaccinal complet. Plus de 90% par contre chez les soignants. Enfin, 11 nouveaux clusters ont été dénombrés. Face à cette situation, pas de renforcement des mesures de restriction pour le moment. Le couvre-feu reste de mise, tout comme le port du masque, l'usage du pass sanitaire, l'interdiction des plages le soir, des pique-niques, des rassemblements. Mais le préfet a d'ores et déjà annoncé la couleur. Si le contexte sanitaire continue à se dégrader, c'est purement et simplement le confinement qui pourrait être décrété dès la semaine prochaine.
Et dans ce contexte, que devient le carnaval? Pour l'instant, déboulés et autres défilés sont interdits, mais le préfet ne ferme pas tout à fait la porte. Il faut faire l'effort aujourd'hui, dit-il, pour espérer un carnaval demain. Écoutez Alexandre Rochatte au micro d'Alexandre Houda.
Donc tout le monde a bien conscience qu'on ne peut pas le faire en ce moment. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille pour la suite. Si on arrive à passer cette 5e vague, comme je l'espère maintenant, l'idée c'est qu'ensuite, on aura devant nous une période pendant laquelle on pourra organiser le carnaval. Et c'est ça l'objectif qu'on peut avoir en ce moment. Alors évidemment, je sais que le carnaval, il commence maintenant. Il y a beaucoup de choses qui doivent se faire. Bon, là, en ce moment, avec la 5e vague, ce n'est pas possible. Mais il y a encore du temps avant les jours gras. Et donc, voilà. Moi, j'ai vraiment un grand espoir qu'on puisse se retrouver dans une période qui sera favorable à ce moment-là.
Rappelons enfin, Michael, que ce jeudi sera, ou devrait être, une journée île morte en Guadeloupe à l'appel du collectif contre l'obligation vaccinale. Quelques barrages routiers ont été signalés cette nuit et ce matin. Barrages dégagés au fur et à mesure par les forces de l'ordre. Bon après-midi, à demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Ainsi se referme notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques, réalisé aujourd'hui par Claude Battista. Vous pouvez nous suivre, vous le savez, je vous le rappelle, chaque jour sur les réseaux sociaux, sur Facebook avec notre page, mais aussi sur Twitter, @RFIAmérique, et commenter ainsi aussi l'actualité. Merci beaucoup de votre fidélité au rendez-vous d'Haïti et des Amériques, et je vous dis à demain.
RFI. Une semaine d'actualité.